Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode.
J'ai vraiment envie de comprendre comment vous accompagnez et surtout, allez, disons-le, hein, j'ai l'impression que c'est un sujet un peu tabou. Mes auditeurs savent, moi j'ai étudié au Canada, donc quand je suis rentré en France, je demandais le salaire de tout le monde. Je me suis senti très gêné rapidement, mais on va revenir là-dessus. Juste pour qu'on comprenne, pour les gens qui nous écoutent, à quel moment il faut contacter la BNP, banque privée, comment vous accompagnez les entrepreneurs, est-ce qu'il y a des typos, c'est quoi les contraintes? C'est le moment de faire la pub.
Exactement. Alors, tu vois, l'entrepreneur ou nos clients, ils ont le choix entre finalement être autonomes, faire leurs opérations eux-mêmes ou d'être accompagnés. Et tu vois, je vais prendre un premier exemple. Dès lors que tu fais un achat immobilier, dès lors que tu as une entreprise, est-ce qu'il faut faire une holding? Est-ce qu'il faut faire une SCI? Quel choix de ma structure patrimoniale? Certains se marient, donc quel régime patrimonial prendre? Quels sont mes objectifs patrimoniaux? Donc finalement, est-ce que je veux transmettre? Est-ce que je veux avoir plus de revenus, etc.? Donc tout ça se travaille. Donc tu as le choix entre soit être autonome ou soit te faire accompagner. Pareil côté gestion financière, dès lors que tu as un capital, que tu as levé de l'argent, qu'est-ce que je fais de ces fonds? Est-ce que je suis autonome ou est-ce que je me fais conseiller? Et souvent, on observe que lorsque tu es conseillé, eh bien généralement, tu as plus de revenus parce que tu n'es pas biaisé dans tes placements. Donc, je pourrais revenir sur cette notion.
Ben, je suis curieux juste sur la partie levée de fonds, c'est la première partie, donc gestion du patrimoine, on est plutôt sur le côté perso. Ouais. Et quand tu lèves des fonds, vous allez conseiller aussi sur la manière de les déployer sur les 12 ou 24 prochains mois. Comment ça se passe exactement?
Alors ça, c'est plutôt le business côté entreprise. Et on travaille main dans la main avec les charges d'affaires entreprises qui travaillent à côté des banquiers privés pour justement accompagner les entrepreneurs sur leur partie business. Mais dès lors qu'il y a des cash out, des sessions, qu'elles soient partielles ou pas, c'est là où on intervient à titre personnel sur leur holding patrimonial.
Ça, c'est très clair. Et justement, je fonce la tête la première dans les exits, dans justement ces sorties. Donc, le principe, c'est que les gens lèvent des fonds, mais qu'au bout de la deuxième, troisième levée, parfois, il est important de capter de la valeur qu'on a créée, parce que c'est que de l'equity. Qu'est-ce que tu observes là-dessus? À quel moment, et vraiment, c'est un sujet, j'essaie d'en parler avec des entrepreneurs, et ça dépend. Je crois que même une série A, les gens sortent pas forcément. Mais apparemment, aux US, on te recommande de faire du cash out. C'est bien perçu. Donc, c'est quoi ton opinion là-dessus?
Dès lors que l'entrepreneur il est engagé, qu'on sait qu'il y a un business model, je pense que c'est important qu'il puisse aussi se rémunérer. L'entrepreneur, et on y reviendra peut-être, il engage son propre capital, il engage le capital des autres. À un moment donné, sa rémunération, c'est bien son exit. Et donc, nous, on est plutôt... incitatif, on lui recommande de le faire et pour ça il faut le préparer, d'où l'accompagnement d'une banque privée pour préparer cette sortie de fonds.
Ok, elle se passe comment exactement?
Alors très concrètement, moi j'ai l'exemple régulièrement, même si en ce moment la conjoncture fait qu'il y en a un petit peu moins, ça prend plus de temps qu'avant, mais ça peut dépendre, par exemple, tu vois, si on l'a préparé avant, les titres peuvent être sur un PEA, donc à ce moment-là, c'est plus simple. Okay. Ou alors, c'est le moment de créer une holding, et donc à ce moment-là, il y a des sujets un peu plus techniques d'apport cession, de réemploi, mais on accompagne nos entrepreneurs tout au long de ce processus.
Côté fiscalité aussi,
exactement, exactement, ouais. Exactement.
Tu parlais des exits, c'est drôle parce que je travaillais dessus récemment, j'essayais de couvrir un petit peu le nombre d'exits qu'il y a eu en France.
Deux fois moins, hein, quasiment en 2023.
Hein. Mais il y a eu beaucoup de consolidation de marché. Je pense à la food tech, je pense aussi... il y a eu beaucoup de boîtes qui sont en redressement judiciaire.
Oui.
Il y a des boîtes qui se font reprendre un peu à la casse. Je pense à Luco qui s'est fait reprendre par Allianz. Mastéos qui pose le... Bon, concrètement, comment il se passe notre écosystème là? C'est quoi les tendances que tu observes? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
Alors, première chose quand même très positive, ce qu'il faut dire et redire, c'est que... en France, l'entrepreneur, ça fonctionne.
Okay.
Entre, tu vois, 2010, c'est il n'y a pas si longtemps, et 2017, il y avait à peu près 500 000 créations d'entreprises par an. Là, on est plutôt, en 2023, sur 1 million.
C'est ce que j'avais vu. J'avais vu qu'en Europe, on est le deuxième pays par habitant, d'entreprise par habitant.
Exactement. La deuxième information, c'est que les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La jeunesse a envie d'entreprendre, même s'ils partent souvent avec un petit capital. Ils ont envie d'entreprendre. Donc ça, c'est quand même très positif. Ce qu'on observe ensuite, c'est que voilà, il y a deux fois moins de levée de fonds, que la conjoncture est un peu plus difficile. Mais pour autant, on voit de l'innovation partout. Tu as cité quelques secteurs dans la food tech, dans l'IA en ce moment, qui vraiment est une innovation assez incroyable. Ça lève encore des fonds, moins que les années précédentes.
Mistral a bien levé. Là.
Et voilà, Mistral, voilà, c'est un succès incroyable.
Ouais.
Et en tout cas, c'est un très bel exemple français d'innovation sur un secteur majeur pour demain.
Tu parlais juste d'apport de capital. Est-ce que, historiquement, les entrepreneurs, quand c'était l'Eldorado des levées de fonds, là, en 2018-2020, est-ce qu'ils venaient avec du capital perso ou est-ce qu'ils allaient directement lever des fonds? Et la deuxième question dedans, c'est est-ce que le lever des fonds était une finalité? On les voit à tous les posts LinkedIn, il y a eu toujours toute une communication autour de ça. Pardon. Est-ce que c'est un shift de paradigme à ce niveau-là? Est-ce que tu vois un changement?
Écoute, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que nos entrepreneurs sont majoritairement focus sur la rentabilité, hein, donc peut-être un peu moins de croissance, et puis faire attention, les levées de fonds, comme on se le disait, sont plus difficiles. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que beaucoup d'enfants de nos clients entrepreneurs, se lancent aussi. Et donc, tu me demandais, est-ce qu'ils partent avec un capital? Certains, oui, effectivement, ont la chance de partir avec un capital. Et puis, ce qu'on observe aussi quand même, et c'est une tendance assez lourde, c'est que depuis le post-Covid, on voit une accélération des transmissions d'entreprises. Il y a eu la digitalisation, maintenant il y a l'IA, et on sent que les entrepreneurs finalement veulent transmettre à une génération suivante. Et ça, c'est un phénomène pour moi de fond, de transmission d'entreprise d'une génération à une autre. Donc, c'est en train de se passer. On a du retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, mais c'est un phénomène qui est en train de se passer. Donc, beaucoup plus de sessions. Et donc, on a besoin de plus en plus de conseils, d'où notre raison d'être pour accompagner ces entrepreneurs.
C'est de l'argent qu'on donne ou c'est un business? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que historiquement, on vendait son business pour donner de l'argent à ses enfants? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on veut que les enfants... Il y a presque un patrimoine culturel dedans.
Il y a les deux.
Okay.
On voit vraiment les deux phénomènes. Et puis, un point aussi qu'on observe, c'est que, tout ne se passe pas qu'en Île-de-France. Je pense à nos territoires et à nos régions. L'accélération se passe aussi en région. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas que Paris.
C'est quoi ton... Je ne sais pas si tu as des stats à partager justement sur région versus Paris.
Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans notre activité, notre croissance depuis ces 2-3 dernières années est plus forte en région.
Okay.
Est plus forte en région. Donc, c'est vrai dans le sud-est, c'est vrai en Occitanie, c'est vrai dans l'ouest de la France, c'est vrai en Aquitaine.
C'était sous-exploité ou c'est parce qu'on a déjà atteint un plafond à Paris?
Écoute, historiquement, sur Paris, on était quand même assez costaud. Mais en tout cas, la croissance, elle est plus forte aujourd'hui dans les régions. Donc, en fait, pour une banque privée comme nous, être présent partout sur leur territoire est un réel atout. Et on voit aussi que les concurrents aussi commencent aussi à s'installer dans les régions parce que c'est en croissance et il se passe aussi plein de choses, plein d'innovations.
Dis-moi une chose sur la banque privée. J'allais dire, ils ont quel âge? Non pas en âge, mais en termes de maturité, les boîtes et les entrepreneurs qui viennent te voir.
Alors écoute, moi ce que je peux te dire, c'est qu'on ouvre deux fois plus de comptes depuis ces deux dernières années à des moins de 40 ans. La moyenne d'âge de notre fonds de commerce baisse.
Alors,
on voit le rajeunissement.
En théorie.
Donc, chaque année, nos clients ne prennent pas un an. En tout cas, c'est ce que j'observe chez moi. Et on a plutôt une moyenne d'âge qui baisse. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis...
Comment tu l'expliques, ça?
Écoute, aujourd'hui, on voit quand même que la transmission, que la création d'entreprise se fait de plus en plus jeune, qu'il y a de plus en plus, il y a eu en tout cas de plus en plus de levées de fonds plus jeunes. Donc, on voit que on a une jeunesse talentueuse qui innove et qui a pas peur de se lancer. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve chez nous. Quand tu ouvres deux fois plus de comptes à des moins de 40 ans, y compris chez nous en banque privée et en gestion de fortune, je veux dire, c'est un indicateur qui est incroyable.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.